L'invité du jour.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, ce sera mercredi prochain le début de l'élection du nouveau pape. 133 cardinaux électeurs participeront au conclave dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur du pape François. Nous y revenons avec le directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Pascal Gollnisch. Entretien.
Beaucoup de médias et de personnes s'intéressent à la question d'un conclave parce que c'est très original comme déroulement. Vous avez bien deux temps. Un temps actuel où l'ensemble des cardinaux discutent entre eux, c'est-à-dire quel que soit leur âge, et donc ce sont des échanges qui leur permettent parfois de se connaître, ils ne se connaissent pas tous, ça favorise la connaissance mutuelle, et puis des échanges très gratuits sur l'état de l'Église et ce qu'il faudrait comme pape et ce qu'il faudrait que le prochain pape fasse. Ce temps est évidemment extrêmement important. Et puis alors, il y a le second temps, qui est l'élection proprement dite, qui, lui, ne concerne que les cardinaux qui ont moins de 80 ans. Et alors, ceux-là vont procéder à l'élection, et souvent, il y a des premiers tours qui sont un peu indicatifs, hein, finalement, dans un premier tour, quels sont ceux qui vont récolter le plus de voix. Et alors, après ça, parmi ceux qui récoltent des voix, un nombre important de voix, alors, quels sont ceux qui vont pouvoir faire une certaine unité, puisqu'il faut deux tiers des votants pour que le pape soit élu. Par conséquent, peut-être un candidat trop marginal qui aura quand même obtenu des voix, eh bien, ne sera plus retenu parce qu'on sait qu'il ne peut pas rassembler suffisamment l'Église. Autrement dit, il faut que le pape soit quelqu'un qui rassemble l'Église. Globalement, l'Église est très unie. Et donc, il faut que cette unité perdure. Donc, il faut être capable d'être un homme d'unité, de rassemblement. Mais en même temps, on attend du pape quelques audaces prophétiques. Le pape François n'a pas manqué de cette audace, mais on se souvient de Jean-Paul II qui avait aussi posé des actes tout à fait prophétiques qui marquaient le monde.
Ces personnalités qui ne sont pas candidates.
Alors bien sûr que non, d'abord, personne de sensé n'a sérieusement envie d'être pape. C'est une mission tout de même très lourde, écrasante, hein. Donc pratiquement peu ont envie d'être pape, personne ne se pose comme candidat. Alors parfois, vous avez des amis qui trouvent que vous feriez bien dans la fonction et qui vous poussent, hein, à le devenir, qui font un peu votre... Ils disent, tiens, ce serait bien qu'ils le deviennent. Donc, ils font un petit peu de lobbying, si vous voulez, pour leur candidat. Mais honnêtement, personne de sensé n'a le désir. Ils sont tous affolés que ça leur tombe dessus. Hein, je veux dire, ils sont tous en train de prier, Seigneur, je vous en supplie, pas moi. Quoi. Voilà, ce sont pas des gens de pouvoir, vous voyez. Alors, il est de bon ton d'imaginer des luttes de pouvoir, etc. etc. Mais non, ce sont des serviteurs, encore une fois. Par exemple, on dit que le pape François, avant d'être élu, avait eu des voix pour lui, mais qu'il ne le souhaitait pas. Voilà, c'est un service que l'on rend, et par conséquent, on espère que ça tombera sur le voisin.
Le pape qui joue aussi un rôle diplomatique dans le monde.
Oui. Alors, à propos de cette diplomatie, plusieurs choses. D'abord, c'est un très bel outil. C'est une diplomatie très particulière parce qu'elle n'a pas à défendre ni des intérêts économiques, ni elle n'a pas à défendre des parts de marché, elle n'a pas non plus à défendre des territoires. Donc c'est peut-être la seule diplomatie qui essaye vraiment d'être au service des populations et des services d'un certain nombre de valeurs comme la justice et la paix. Partout, la diplomatie du Saint-Siège essaye d'agir pour la justice et la paix. Ensuite, c'est une diplomatie qui est particulièrement discrète. En principe, c'est le cas de toutes les diplomaties, mais la diplomatie du Saint-Siège est très discrète. Donc, on ne sait pas toujours très très bien ce qu'elle fait. Troisièmement, alors ça c'est à titre personnel que je m'exprime, le personnel diplomatique du Saint-Siège, ce sont des diplomates de grande qualité, mais depuis un certain temps, ils jouent un rôle dans la direction des églises locales. Et là, je suis moins enthousiaste parce que je trouve que la direction des églises locales, ce sont les pasteurs, ce sont les évêques d'un pays, il y a des conférences épiscopales, il y a des présidents de conférences épiscopales, et je ne suis pas certain que les nonces et l'expérience pastorale pour jouer un rôle aussi important dans ce domaine. Donc moi, personnellement, encore une fois, c'est mon avis personnel, je souhaiterais que les nonces se concentrent sur leur mission diplomatique. Et deuxièmement, cette mission diplomatique, je trouve que, à force d'être discrète, elle n'est pas toujours lisible. C'est difficile de savoir exactement ce que fait la diplomatie du Saint-Siège, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut faire en Arménie, ce qu'elle veut faire en Ukraine, dans d'autres pays plus ou moins compliqués, au Moyen-Orient, etc. Et donc, je trouverais bien, tout en gardant cette discrétion, que elle soit plus synodale dans sa définition et qu'on puisse mieux en comprendre les lignes de force. Mais c'est sûr que l'animation de ce réseau diplomatique est quelque chose d'important pour le pape, même s'il est aidé par des gens très remarquables comme le secrétaire d'État, qui est à la fois le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Et par rapport à son rôle de ministre des Affaires étrangères, évidemment, il y a quand même des collaborateurs de grand niveau. Mais voilà, je pense que c'est la diplomatie du Vatican, de l'État du Vatican, c'est tout de même aussi la diplomatie de l'Église, au service de la mission de l'Église, et je trouve que ce sera intéressant de pouvoir mieux la connaître et la lire.
On se souvient notamment des cris d'alarme de François sur la situation dans la bande de Gaza.
Oui, bien sûr, dans la bande de Gaza, mais il y a aussi la situation en Syrie. Le nonce en Syrie a été fait cardinal par le pape François. Il est en Syrie depuis longtemps, il connaît bien la Syrie, et donc là aussi, il joue un rôle important. Mais il y a les nonces au Liban aussi, forcément, qui jouent un rôle non négligeable. Il y a un nonce en Ukraine. Et je pense que parfois, il y a eu sur l'Ukraine, pas de la part du nonce, hein, mais de la part de certains à Rome, des approches un petit peu floues. Voilà, lorsqu'on demande à l'Ukraine de sortir son drapeau blanc, c'est tout de même un peu flou comme appel. En fait, en creusant la question d'un drapeau blanc, puisque le pape François avait appelé l'Ukraine à sortir le drapeau blanc. En fait, le drapeau blanc a deux significations bien différentes. Il y a la pause, l'arrêt du combat, et puis il y a la reddition. Et les deux peuvent se traduire par un drapeau blanc. Encore faut-il qu'on sache de quoi on parle. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de signifier que dans ce conflit, il y a un agresseur et un agressé. Après ça, la diplomatie du Saint-Siège n'est jamais contre qui que ce soit. Par exemple, je sais que la communauté arménienne prend ombrage des liens qu'il y a entre le Vatican et l'Azerbaïdjan. Mais ce n'est jamais une diplomatie contre, ce n'est pas une diplomatie contre l'Arménie. Le Saint-Siège ne fait jamais une diplomatie contre un pays. C'est d'ailleurs pour ça que, à la Seconde Guerre mondiale et à la Première Guerre mondiale, on a parfois reproché la diplomatie du Vatican de pas dire clairement quel était l'ennemi, mais parce que le Saint-Siège n'a pas d'ennemi. Le Saint-Siège travaille pour la paix et pour la justice.
Le pontificat de François a été marqué par une intensification du dialogue interreligieux. C'est particulièrement important et cela doit être suivi lors du prochain pontificat.
Oui, bien sûr. Alors, n'oublions pas que ce dialogue interreligieux est né au Concile Vatican II, hein, donc dans les années 60, et que le pape Paul VI, je souhaiterais qu'on rende plus hommage au pape Paul VI, qui a ouvert les chemins, il a ouvert ce dialogue interreligieux. Mais c'est vrai que notamment Jean-Paul II a poursuivi ce chemin, et que François a posé des gestes très forts, surtout en direction de l'islam sunnite, de l'islam chiite, au cours de ses voyages, notamment en Égypte, son voyage en Irak et son voyage à Abu Dhabi spécialement. Et donc effectivement, il a tissé des liens de confiance avec ce monde musulman, et il a été perçu par le monde musulman comme un messager de paix et quelqu'un qui était respectueux du monde musulman. La difficulté, c'est que ce monde musulman, il est extrêmement éclaté. Vous comprenez, le roi du Maroc va vous expliquer qu'il est le commandeur des croyants, le recteur d'Al-Azhar, le recteur de la plus grande université d'Égypte, le roi d'Arabie Saoudite est le protecteur des lieux saints. Mais enfin, ce sont des... Vous voyez, il n'y a pas, là aussi, il n'y a pas de pape. Donc, l'une des difficultés dans le dialogue interreligieux, par exemple avec l'islam, c'est qu'il faut arriver à parler avec les différentes autorités musulmanes entre lesquelles il n'y a pas toujours des relations extrêmement chaleureuses. Et le pape a su parler avec chacune d'elles. Il a notamment reçu le recteur de la grande mosquée de Paris, qui a tissé avec le pape des relations extrêmement confiantes, et là aussi voulant œuvrer pour la paix. Hein, je rappelle que le recteur de la Grande Mosquée de Paris n'a cessé de condamner tous les actes de violence faits contre les chrétiens. Encore faut-il que les gens veuillent bien l'écouter et le lire. Donc vous voyez, c'est peut-être cela qui a été très fort, c'est d'avoir pu parler avec les différentes autorités de l'islam, y compris avec le grand ayatollah en Irak, et donc aussi avec le monde chiite, et ça c'était tout à fait novateur. Voilà. Oui, le pape François a su poser des gestes, plus que de développer peut-être une doctrine, mais poser des gestes, c'est très important, à forte valeur symbolique, dans le cadre du dialogue interreligieux, et un moment un peu complexe quand même.
Merci, Monseigneur Pascal Gollnisch.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes le directeur de l'œuvre d'Orient. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
L'invité du jour.